dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grünwald.
Salut à tous, vous écoutez France Bleu, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour une nouvelle balade. Comme chaque week-end, on embarque tous ensemble pour un voyage dans le temps. Chaque fois avec nous un invité, aujourd'hui c'est une figure emblématique de la télé qui nous accompagne. Concepteur de produits culturels, animateur, producteur, écrivain, il a révolutionné la télé, souvent imité, jamais égalé. Bonjour Thierry Ardisson.
C'est très élogieux, bonjour, merci.
Non mais, c'est vrai.
Il y a deux animateurs en fait qui sont sortis ces 10 dernières années, c'est Yann Barthès et Cyril Hanouna. Ils sont de leur époque, quoi. Je veux dire, maintenant vous dire qu'il y a un Thierry Ardisson avec ce que moi j'ai apporté de d'impertinence, de transgression, de créativité aussi sur les formats d'émissions, etc. Il y en a pas dans la mesure où aussi bien Cyril que Yann Barthès, ils font pas des émissions dont le mécanisme est révolutionnaire.
Le 8 février est sorti le livre Tout le monde en reparle. Vous êtes donc en pleine promo en ce moment. Est-ce que ça vous gonfle de faire la promo à la base?
Pas du tout. Non. Sinon je ferais pas. Non. Moi j'ai toujours, j'ai jamais couru après les médias, mais quand les médias m'ont sollicité, j'étais là. Je pense que quand on fait ce boulot, c'est comme les gens qui ont tout fait pour être célèbres, et puis quand ils sont célèbres, ils mettent des lunettes noires, ils veulent pas qu'on les reconnaisse. Il fallait bosser chez AXA à ce moment-là, il fallait pas faire de la télé. Donc moi, le fait qu'on m'arrête dans la rue, qu'on fasse des selfies ou que je vienne vous parler là aujourd'hui, je suis ravi, tout à fait. C'est ce que je voulais.
Dans ce livre, tout le monde en reparle, il y a un truc qui m'a interpellé. On découvre que vous ne vous excusez jamais. Pourquoi? Oui. C'est une faiblesse pour vous de s'excuser?
Non, mais on vit dans un monde où tout le monde passe son temps à s'excuser de tout.
Oui, donc, mais si Thierry Ardisson qui s'excuse, c'est pas habituel.
Mais les gens, par exemple, on le voit tous les jours, machin a dit ça, puis 3 heures après, machin s'excuse. Donc, moi, quand je dis quelque chose, je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Donc, je vois pas pourquoi je m'excuserais. Alors, des fois, ça peut être choquant pour les gens, mais en fait, ça me dérange pas du tout.
Thierry Ardisson, je vous propose de démarrer notre voyage dans le temps. Vous êtes prêts?
Ouais.
Janvier 1949, vous naissez à Bourganeuf dans la Creuse. Vous auriez pu naître n'importe où ailleurs, puisqu'à l'époque, votre père travaille pour une entreprise de travaux publics et vos parents déménagent au rythme de ces chantiers. Enfant, vous vous demandez ce que vous foutez dans cette famille. C'est super violent, je trouve.
C'est la vérité. Oui, moi, je me suis toujours demandé ce que j'ai fouté là, ce que j'avais rien à voir avec eux.
Mais c'est hard de s'épancher comme ça dans un livre. Les interviews, ça doit être un choc pour vos parents à l'époque.
Ouais, c'est sûr. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense, voilà, c'est comme ça. C'était une enfance assez malheureuse, dont je parle effectivement dans le livre qui s'appelle Confession d'un baby-boomer. Une enfance pas très heureuse, dans un milieu où je ne me sentais pas vraiment à mon aise.
Trop normal pour vous, quoi.
Voilà, moi je comprenais pas pourquoi on avait une Dauphine et pas une DS19. Je trouvais que c'était pas à mon niveau, quoi.
Je vais être honnête avec vous, je l'ai lu ce bouquin, bien évidemment. Et dans vos interviews, on retrouve beaucoup de ces formules qu'on retrouve dans le bouquin.
Ouais.
Mais on a l'impression que chez vous, tout est marketé, tout est travaillé. Je m'en suis enfilé des heures d'émissions, d'interviews, des papiers. On a du mal à vous cerner, en fait, parce qu'on a l'impression que vous donnez aux journalistes ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est-à-dire que vous parlez de choses déroutantes, de votre suicide à 20 ans, de l'héros. Donc vous vous dites, c'est bon, j'ai donné du matos aux journalistes,
c'est
maintenant...
C'est prétentieux.
Tout est slogan chez vous,
Non, moi, j'ai commencé dans la vie... Non, mais ça, ceci étant, il y a du vrai dans ce que vous dites. Hein. J'ai commencé dans la vie... à 19 ans, à travailler dans les agences de pub. Et très vite, oui, j'ai compris la communication, j'ai compris...
Mais vous planquez derrière tout ça, c'est dingue.
Ah bon, vous croyez?
Ah bah, j'en suis certaine. C'est un truc de fou.
Ah bon?
Mais c'est vrai, mais même depuis le début de l'émission, je vais pas tout reciter.
Quand on est suffisamment âgé pour avoir une vision d'ensemble de sa vie, la façon d'en raconter les épisodes devient la même, effectivement, parce qu'il n'y a pas deux versions de la même chose, quoi, je veux dire...
Mais c'est au mot près, vous avez des formules.
Oui,
pour résumer chaque étape de votre vie, ça se termine par des formules.
Ça, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que tout ça, c'est du storytelling, quoi.
En fait, c'est comme dans vos émissions, finalement. C'est vrai, c'est limite, on se dit, en fait, le gars, il avait des fiches, il savait qu'il allait faire des interviews, il a trouvé des punchlines, et voilà, quoi, il nous les ressort à toutes les sauces.
Vous savez que quand je commence mon émission, elle est entièrement écrite, il y a toutes les vannes sont écrites, tout est écrit.
Thierry Ardisson, on va revenir sur votre livre Confession d'un baby-boomer. Vous l'avez dédicacé à votre père Victor Ardisson, donc ce bouquin, qui ne le lira pas hein, puisqu'il est parti en 2004. Pourquoi vous ne l'avez pas dédicacé à votre maman aussi?
Parce que, je ne sais pas pourquoi. Non, mais franchement, je ne sais pas. Mais mon père, en fait, je vais vous dire pourquoi. C'est que mon père, il a fait des travaux publics parce que c'était après la guerre, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas fait des super études, et il a fait des travaux publics. Son rêve, c'était de vivre la vie que je vis. Il me faisait écouter Chansonnier, les émissions d'histoire et tout. C'est lui qui m'a vraiment formé. Et je pense que j'ai vécu un peu sa vie par procuration, disons.
On le disait tout à l'heure, donc vous aviez du mal quand vous étiez petit parce que vous aviez une famille trop normale. Vous êtes parti très vite, on va y revenir.
Ouais.
Mais avant de mourir, votre père vous a dit « Toi, tu as bien réussi
ouais. ».
Vous n'auriez pas préféré qu'il vous dise « Je t'aime, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait ».
Pas du tout. Il a très bien fait de me dire ça. Non, j'étais très fier de ça. Ouais.
Thierry Ardisson, on va continuer notre voyage dans le temps. On va d'abord allumer l'autoradio un petit peu. Ça vous rappellera l'époque du whisky à gogo en 1966. Ouais. À Juan-les-Pins, premier boulot, DJ. C'est emballé en plus pas mal hein, dans la pinette juste en face. Et rappelez-vous, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Dans le rétro de Thierry Ardisson, on revient dans un instant sur France Bleu. Sur France Bleu, Thierry Ardisson est notre invité aujourd'hui dans le rétro.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
À 17 ans, Thierry, vous quittez le domicile familial. À 20 ans, vous partez à Paris. Vous commencez à bosser dans la pub. Alors allez-y, appuyez sur le bouton juste en face de vous. Mars 1974, nous sommes dans l'avion, vol Garuda Airlines. On atterrit à Bali, vous êtes là avec Christiane, votre première femme, vous vous installerez quelques temps là-bas, vous vous défoncez du matin au soir, herbe, cocaïne, champignons hallucinogènes, paradis artificiel, puis descente aux enfers, c'est ce qu'on peut dire ?
Oui, exactement. Le trip habituel de l'époque, c'est-à-dire que nous, on est la première génération à avoir connu la drogue en vente libre. Avant, l'héroïne, par exemple, c'était réservé à des jazzmen afro-américains. Enfin, c'était un truc, l'héro, ça courait pas les rues. Hein. Et on s'est retrouvés à Bali à l'époque où c'était encore très vierge, quoi. Et effectivement, on avait toutes les dopes possibles. Alors au début, c'était très amusant. Et puis après, je me suis accroché à l'héro, donc là, c'est devenu moins rigolo. Mais encore une fois, c'est un parcours initiatique, quoi. Le tout, c'est
ouais,
que...
Qu'est-ce que vous alliez chercher dans ces drogues?
Nirvana, on allait chercher. 68 avait été un échec. Il n'y avait plus tellement d'aspiration à part la société de consommation qui était en train de vraiment s'installer, puisqu'elle a commencé à s'installer évidemment après 68, vraiment. Et moi, je bossais dans une agence de pub, j'ai l'impression de vendre mon âme au diable. Aujourd'hui, un mec qui prend de l'héros, c'est un zéro. Avant, c'était un héros, voilà, si vous voulez une formule. Mais c'est vrai, moi, je m'en suis sorti. Mes potes, ils sont morts soit d'overdose, soit du sida. Hein. Je veux dire, je suis le seul rescapé pratiquement de la bande. J'en connais plus d'autres qui sont vivants. Et moi, je m'en suis sorti parce que j'ai le mental.
Thierry Ardisson, c'est aussi la pub.
Amen. Chaussée au moine.
Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barovo Maltine, c'est de la dynamique.
Tout ça, c'est vous, donc. Il y a aussi la presse, il y a les bouquins, Cinémoi, La Bilbe, Rive Droite, Louis XX, Pondichéry, Les Fantômes des Tuileries, et puis il y a l'homme de la télé, la boîte à idées du PAF. Ça commence en 85, sur TF1, avec des centres de police. Vous interviewez des personnalités dans un décor de commissariat, vous les brutalisez, vous y prenez du plaisir. En fait, vous êtes sadique.
En fait... Ça aussi, vous allez me dire, c'est une formule.
Ah non.
Non, mais en fait, un bon intervieweur, c'est quelqu'un qui, quand il était petit, aimait bien arracher les ailes des mouches. C'est-à-dire qu'il faut être un peu sadique. Quelqu'un de gentil peut pas être un intervieweur.
Ah,
pas...
je suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez pas être dans l'empathie, justement,
si,
pour
mais
interviewer.
Si, quand je suis dans l'empathie, c'est parce que ça aide mon interview. Mais c'est pas ma posture naturelle. Bien évidemment que je peux être dans l'empathie quand j'ai envie. Quand je vois que j'arriverai pas à faire avouer quelqu'un d'une certaine façon... Je suis empathique, évidemment, si ça peut aider l'interview. Et ensuite, effectivement, il faut être un peu sadique, parce que des fois, des gens, ils n'ont pas envie de vous dire les trucs, puis on sent bien que si on appuie un petit peu, ils vont le dire.
Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir dans votre émission? J'imagine que oui, de toute façon.
Il y en a deux qui ne sont jamais venus. C'est Yannick Noah, parce que j'avais fini une interview de lui dans des centres de police où il disait qu'il fumait du hash. En se disant, ça sort dans Rock et Folk, ça restera dans Rock et Folk, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'actu, c'était fin août. C'est devenu un scandale national. Et Depardieu, il avait dit. Les filles à Châteauroux, on les baisait à 15 ou 16. Et moi, je lui avais dit, mais elles étaient d'accord. Et il m'en avait répondu, au début non, mais après oui. Et un jour, il était en lice pour l'Oscar, et un mec genre Weinstein, je ne suis pas sûr que ce soit lui, qui lui avait un film concurrent, a dit, regardez ce que Monsieur Depardieu a déclaré en France. Et il n'a pas eu l'Oscar, ce qui fait qu'il m'en a voulu à mort. Alors que bon, c'était lui qui l'avait dit, hein, c'est pas moi.
Mais
pas...
vous aimeriez bien le recevoir quand même? Oh, j'imagine que... Bon,
franchement... Oui, j'aimerais bien, oui. Ouais.
Nous sommes 7 rue du Bourg-l'Abbé dans le 3e à Paris, au Bain Douche. On va sortir par contre là parce qu'on s'entend pas parler. C'est mieux là, on s'entend mieux tout de suite. Vous présentez une nouvelle émission, Bain de minuit. Il y aura aussi Lunette noire pour Nuit blanche. Vous vous sentez comment à cette époque? On a l'impression que tout vous réussit. Il y a une certaine assurance
ouais,
dans vos interviews.
Oui, bien sûr. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je faisais deux émissions. J'ai Descente de police et Scoop à la une. Descente de police, ça s'est arrêté au bout de 6 numéros. Je continuais Scoop à la une. Et quand je sortais de cette émission, pour aller me détendre, j'allais au bain. Et un jour, je me suis dit, non, attends, pourquoi tu fais pas l'émission directement au bain? Effectivement, c'était ultra branché. C'est l'émission la plus branchée, la plus chic que j'ai pu faire. C'est un peu comme si j'avais commencé avec la haute couture. Après, j'ai fait le prêt-à-porter. Ouais. Mais c'est connu, on va dire.
En faisant du prêt-à-porter, finalement, ça vous a permis d'être populaire. Vous n'auriez jamais été populaire en restant branché, finalement.
Voilà, vous avez tout à fait raison. Et en fait, le déclic, c'est un jour, un de mes programmateurs, je faisais à l'époque une émission qui s'appelait Double Jeu aux Folies Bergères. Et mon programmateur me dit, est-ce que tu prendrais Sacha Distel? Moi, je dis, arrête, t'es con. Hein,
et Enrico Macias aussi.
Enrico Macias. Ouais. Et là, j'ai dit, bah oui, t'es con, pourquoi tu dis non?
Il y aura un paquet d'autres émissions, Télé Zèbre, Double Jeu, donc, Ardimat, Paris Dernière, Rive Droite, Rive Gauche, tout le monde en parle, 93 Faubourg Saint-Honoré, j'ai plus de souffle tellement il y en a, Salut les Terriens, et désormais les Terriens du samedi et les Terriens du dimanche. Vous passez votre temps à bosser en fait.
Ouais.
Et à vous remettre en question en permanence.
La chance que j'ai, c'est que j'ai une femme qui travaille plus que moi.
Donc
maintenant, oui. Ouais. Ça c'est vraiment très très bien parce que je pense que je suis battu.
Ça déculpabilise.
Ouais, ça déculpabilise. Puis comme ça, on se dispute pas parce que de toute façon, on travaille tous les deux.
Thierry Ardisson est notre invité aujourd'hui. Le livre pour lequel il est avec nous s'appelle Tout le monde en reparle. Il y a aussi Les Terriens du samedi, Les Terriens du dimanche sur C8 à 18h45. Dans le rétro, la suite dans un instant. Pour se replonger dans les années de l'émission Tout le monde en parle, il y a le livre. Tout le monde en reparle et Thierry Ardisson est avec nous pour l'occasion.
Dans le rétro. Bienvenue. dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Thierry Ardisson, vous êtes un grand intervieweur. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a souvent des formules qui reviennent.
Ouais.
Tout est carré chez vous.
Ouais.
Tout est calculé, pensé, ouais. Réfléchi.
Mais rien quand même, mais c'est vrai.
Beaucoup.
Oui.
L'imprévisible vous fait peur. Hein. Vous n'aimez pas ça. Hein.
Ah bah une fois, mon ex-femme.
Non, mais je vais le dire à votre place parce que je sais ce que vous allez dire. Elle vous a préparé un anniversaire surprise. Oui. Vous avez débarqué.
Oui. C'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple possible de l'imprévisible. Je déteste ça et de plus en plus.
Vous avez fait la tronche toute la soirée, en gros.
Ouais, et tout le monde est parti assez rapidement. Non, mais je déteste ça.
Vous dites aussi souvent que vous n'êtes pas dans l'affect.
Ouais.
Et finalement, là, maintenant, on a beaucoup plus l'impression que vous êtes, comment dire, il y a plus de sensibilité quand vous recevez des invités. On vous voit les larmes aux yeux. Alors parfois, je vais être honnête avec vous, c'est peut-être le montage qui fait ça, mais ça peut paraître faux.
Oui, je sais, oui. Oui, c'est Guillaume qui
est
allé dire
dans
une émission que je pleurais sur commande. Ça
c'est
serait
ça,
génial.
Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il a dit.
Tout. Non, mais en fait, je sais qu'il a dit ça. Bah non, bien évidemment, non.
Qu'est-ce qui s'est passé alors entre le moment où Ardisson attaquait, avait une certaine froideur, et maintenant les terriens où il y a vraiment une sensibilité?
Ça dépend. Avec les gens qui ont des histoires qui sont... je sais pas, l'autre fois, on a reçu mon pilote de moto d'ailleurs, Jesse, qui racontait son enfance à la DAS. Ça m'a effectivement beaucoup ému, sincèrement ému. Mais moi, alors, je me préfère comme ça.
Vous choisissez de garder ces moments, ces plans où on vous voit un peu peiné.
Je leur dis de pas trop en mettre, mais si je pleure, de toute façon, on peut pas ne pas me montrer. On va pas prendre des plans où je pleure pas pour les mettre à la place des plans où je pleure. Donc, celui-là, je pleure, oui. Non, c'est sincère, c'est vraiment sincère.
Qu'est-ce qui a changé?
D'abord, j'ai 70 ans.
Et quand on vieillit, on devient plus sentimental.
Bien sûr.
Ouais.
70 ans, je vais être grand-père.
C'est
là, voilà un scoop, vous liez un scoop.
Non.
Tiens, vous liez un scoop.
J'allais vous poser une question par rapport à ça tombe
vouliez,
super
vouliez,
bien. Sérieux?
Vous vouliez que je vous dise quelque chose que je n'ai pas encore dit.
Oh, laquelle? Manon?
Manon est enceinte. Donc voilà, je vais être grand-père. Alors je me suis dit, à tout le monde, personne n'osait me le dire, en disant le jour où on va lui dire, il va piquer une...
C'est pour ça, j'avais une question.
Il va flipper. Et en fait, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, mais Paul McCartney et Mick Jagger sont grand-pères. Après tout, pourquoi pas moi? Voilà, je me suis vendu l'histoire comme ça.
Donc, bonne nouvelle, bien vécue.
Ouais, ouais. Non mais vraiment j'ai changé. Et non, puis il y a un truc aussi, pour être tout à fait complet sur votre question, c'est que j'ai mon côté méditerranéen, en vieillissant, c'est pareil, reprend le dessus. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, disons, j'étais un petit gars qui venait de province, quoi. Et aujourd'hui, bon, je suis assez à l'aise dans tout ça. Et j'ai plus de faconde, peut-être, plus de... Voilà, je suis moins...
Vous êtes plus ancien.
Ah mais plus sensible, ouais. Non, c'est vrai, non, je suis beaucoup plus sensible qu'avant, bien sûr. Ouais.
Thierry Ardisson, on va ouvrir la boîte à gants juste en face de vous. Ce sont vos enfants, ils ont été élevés par votre ex-femme Béatrice. Quand Ninon est né, vous n'êtes même pas allé à la clinique. Pourquoi vous avez fait des enfants en fait? Vous saviez que vous alliez être pris par votre boulot?
Oui, non, parce que ma femme voulait absolument faire des enfants, je vois pourquoi je n'aurais pas fait. Aussi c'est égoïste de dire, moi je ne mourrais pas d'envie d'avoir des enfants et j'étais très pris par mon travail. En même temps... Ce qui s'est passé, qui est très bien dans cette histoire, c'est que effectivement, elle les a élevés. Je leur ai acheté un petit haras en Normandie, donc elle les a pas élevés dans une cabane. Ils ont vécu là-bas toute leur prime enfance dans un paradis de rêve.
Mais vous ressortez ça à chaque fois, c'est-à-dire que c'est l'aspect financier qui prime.
Oui, parce que je pense que moi j'ai tellement souffert.
Comme pour vous déculpabiliser en fait, c'est-à-dire j'ai fait mon rôle.
Tellement... Oui, je termine. Ouais. Moi j'ai tellement souffert du manque d'argent et de vivre mal que je voulais qu'ils vivent. Absolument différemment de moi, donc c'était déjà quelque chose. Mais la deuxième chose, c'est que ma femme, Béatrice, m'a toujours dit « De toute façon, moi je m'en occupe et après c'est toi qui t'en occuperas. » Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très très proche d'eux et je m'occupe d'eux, mais à un niveau... Vous savez, pour leur donner à manger, je suis pas le meilleur. Pour les aider à trouver une place dans la société, je pense que je peux les aider. Donc voilà, donc j'ai trouvé mon utilité finalement. Vous dire que j'accompagnais mes enfants à l'école, non.
Non.
Vous dire que j'allais chercher mon fils.
Est-ce que vous leur faisiez des câlins? Est-ce que vous leur disiez je t'aime? Est-ce que...
Oui, j'étais pas très. Moi, j'ai pas été élevé. Vous savez, notre génération, nos parents ne nous disaient pas je t'aime. Hein. C'est très récent ça. Donc moi, j'ai été élevé par des parents qui me disaient pas je t'aime. Donc je suis pas spécialement tendance à le dire d'ailleurs. Maintenant, j'ai changé aussi. Je suis plus. J'exprime mieux mes sentiments. Mais à l'époque, j'avais pas du tout à cœur de le faire.
On va ouvrir le coffre, Thierry Ardisson. Allez-y.
Ah!
C'est une peinture, un portrait de Cocotte de Jean-Gabriel Demergue. Vous en faites la collection, mais c'est pas que pour ça.
Vous savez ce que je vais vous dire? Non, je suis sûr. J'avais un appartement entièrement meublé, j'avais les tableaux au mur, tout ça. Il manquait évidemment la femme. Et j'ai vu à la télé Audrey Crespo-Mara.
Qui ressemble au portrait que vous collectionnez de Demergue.
Et donc je l'ai appelé. J'ai dit, je vais déjeuner avec vous. Voilà, puis on s'est mariés. Quoi.
Vous dites à propos de d'Audrey Crespo-Mara que c'est la première fois que vous avez le sentiment qu'on vous aime autant.
Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'aime autant, quoi, pour ce que je suis.
Et qu'est-ce qui vous prouve qu'elle vous aime pour ce que vous êtes? Comment vous le savez, ça?
Parce qu'on se voit quand même, même si on travaille beaucoup, on passe du temps ensemble.
Ouais, mais quand on est connu et que quelqu'un peut tomber amoureux, ou on a toujours des doutes sur la sincérité.
Oui, bien sûr, mais elle, en ce qui concerne Audrey, quand je l'ai connue, elle n'avait jamais regardé Tout le monde en parle. Ah non, elle vivait d'une façon complètement différente, dans un milieu complètement différent. Et elle connaissait pas, elle a jamais vu Tout le monde en parle. C'est moi qui lui ai montré, mais Tout le monde en parle.
Merci Thierry Ardisson.
Merci en tout cas, c'est très agréable. Je passe un très bon moment.
De quoi vous êtes le plus fier dans votre vie?
D'avoir toujours envie.
Je croyais que vous alliez me dire de mes enfants. En général, c'est ce qu'on dit.
Ah bon?
Bah, quand même.
Ouais, non, non. Enfin, je suis fier d'eux, mais non, non. Non, non. D'avoir toujours envie de pas avoir baissé les bras, voilà, d'être toujours on the go, quoi.
Merci Thierry.
Bon, c'était super.
Le livre Tout le monde en reparle est sorti aux éditions So Lonely, Sexe, mensonge et Magnéto, l'histoire secrète de l'émission qui a changé la télé. Il y a Les Terriens aussi les samedis et dimanches à 18h45 sur C8. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur France Bleu. Je vous rappelle, replay podcast francebleu.fr. Prenez soin de vous, salut.